Quand le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puis-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les autres. Quand le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puis-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Quand le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puis-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. On commence par un temps de méditation. Prenez toujours quelques minutes pour bien placer le corps en méditation avec la colonne vertébrale droite. Si l'esprit n'est pas distrait, s'il est clair, lucide, et si vous avez l'habitude de méditer, demeurez simplement dans cet aspect connaissance de l'esprit qui prend conscience de la présence de tous les phénomènes. Et observez les phénomènes selon trois caractéristiques. Ils sont impermanents, ils sont dépourvus d'entité propre, d'existence propre. Ils dépendent de multiples conditions. Et si l'on saisit ces phénomènes, dukkha apparaît immédiatement dans l'esprit. Voir la nature des phénomènes permet à la saisie par rapport à ces phénomènes de se relâcher. Pour les personnes qui découvrent la pratique ou qui méditent depuis peu de temps, placez votre esprit sur un support tel que la respiration. Quand votre esprit est placé sur ce support, développez la vigilance, ce qui vous permet d'être conscient de ce qui se passe intérieurement, extérieurement, et surtout, c'est la vigilance qui nous permet de savoir si notre esprit est distrait ou pas. Il est distrait lorsque, tout en étant conscient des phénomènes, il perd conscience du support de méditation. Quand on constate la distraction, nous prenons conscience de l'objet de distraction et nous le lâchons. Le lâcher veut dire ne plus lui accorder l'intérêt qu'on lui accordait, et en aucun cas cela veut dire faire en sorte qu'il disparaisse. Donc l'esprit reste détendu. Et quand on a lâché cet objet de distraction, alors on le replace tranquillement sur le support de méditation. Bien, pour l'enseignement ce soir, on va continuer la série d'enseignements de Lama Yeshe. Et ce soir, on va voir les six facteurs défavorables pour notre cheminement spirituel. Les six facteurs défavorables pour notre méditation, pour notre pratique méditative. Méditer, ça veut dire entraîner l'esprit, mais pas seulement entraîner l'esprit à la concentration. Méditer, ça veut dire aussi observer et comprendre comment fonctionne notre esprit. Et nous avons besoin de nous entourer de conditions favorables tant que l'esprit n'est pas vraiment, stable ou en tout cas contrôlé, même si je n'aime pas trop ce terme de contrôle, parce que le contrôle n'est pas quelque chose qui doit être appliqué de façon rigide, ce n'est pas quelque chose de rigide. Mais tant que l'esprit manque de discipline, on va dire, eh bien, il y a des situations qu'il est préférable d'éviter, si l'on peut bien sûr les éviter, de façon à ce que notre pratique rencontre le moins d'obstacles possible. Et Lama Yeshe développe ces six points. Et le premier de ces points, eh bien, c'est les facteurs karmiques, c'est-à-dire toutes les empreintes karmiques laissées sur notre conscience de base, l'alaya vijnana, par nos actes négatifs. À chaque fois que nous accomplissons un acte négatif, il y a une empreinte qui est déposée, si vous voulez, de façon imagée, qui est déposée dans l'alaya vijnana, dans cette conscience de base. Cette conscience de base que l'on traduit aussi par la conscience réservoir, pour bien montrer que c'est cette conscience qui amasse toutes les empreintes karmiques. Ces empreintes karmiques, elles sont déposées par les actes négatifs que nous accomplissons, et les actes négatifs peuvent être accomplis par le corps, la parole et la pensée. Et pas seulement par le corps. Les paroles négatives, eh bien, entraînent des empreintes karmiques, et les pensées négatives également. Ces empreintes karmiques, c'est ce qu'on appelle le karma à l'état potentiel. Et ces empreintes, ou ce karma potentiel, reste à l'état potentiel tant qu'il ne trouve pas les conditions qui lui permettent de donner le fruit correspondant. Si par exemple vous prenez un grain de blé, que vous laissez le grain de blé ici, il a en potentiel l'épi de blé, mais il n'a pas les conditions pour que l'épi de blé apparaisse. Il lui faut de la chaleur, de la terre, de l'humidité. Et si vous le laissez un an sur ce plancher, même si le cycle des saisons passe, ce grain de blé restera à l'état potentiel. Et il restera à l'état potentiel tant qu'il ne trouvera pas les conditions lui permettant de manifester son fruit. Et le fruit de ce karma potentiel est ce qu'on appelle le karma à maturité. D'où la nécessité, ou d'où l'importance dans la pratique du bouddhisme, de la purification. Quand on parle de purifier les voiles, c'est notamment purifier le voile des empreintes karmiques, parce que nous ne savons pas quelles sont les empreintes karmiques qui sont engrangées actuellement dans notre conscience de base. Nous n'avons peut-être pas accompli trop d'actes négatifs au cours de cette vie, mais nous ne savons pas ce qui s'est passé dans les vies passées. Et c'est comme cela que les bouddhistes expliquent pourquoi un individu, un enfant par exemple, rencontre une situation extrêmement difficile, alors qu'il n'a pas eu le temps dans cette vie-là d'accumuler un karma, si vous voulez, négatif, qui donne ce fruit. Cela veut dire que la cause de cette situation, la cause de ce fruit, a été engrangé dans cette conscience de base dans une vie passée. Et que, à ce moment-là, aujourd'hui, les conditions font que cette potentialité puisse donner son fruit. Dans la purification de ces empreintes karmiques, toutes les empreintes karmiques sont purifiées. peuvent être purifiés. Et il n'y a pas dans le bouddhisme un acte, une trace d'acte, le pire qui soit, qui ne puisse pas être purifié. Hein? La notion de péché mortel, comme dans le christianisme, ça n'existe absolument pas dans le bouddhisme. Toutes les empreintes karmiques peuvent être purifiées. Mais pour la purification, il faut développer quand même quatre forces. Il ne faut pas se dire, bon, ben alors, puisque tout va être purifié, c'est bon. Voilà. Il faut quand même développer quatre forces pour que la purification soit effective. La première de ces quatre forces, c'est la force du regret. Le regret d'avoir accompli de tels actes négatifs. Et on parle de la force du regret, on ne parle pas de la force de la culpabilité ou la force de la honte ou je ne sais quoi. On parle de la force du regret. Prendre conscience que nous avons accompli des actes négatifs par le corps, la parole et la pensée, et regretter, en fait, sincèrement, eh bien, d'avoir accompli de tels actes. Qu'est-ce qu'on appelle un acte négatif dans le bouddhisme, puisque dans le dharma, il n'y a pas notion de bien et de mal. Mais on parle d'acte négatif et d'acte positif. Un acte négatif est un acte qui est cause de souffrance pour autrui, avec la motivation de causer cette souffrance. Et inversement pour l'acte positif. Donc la première force, c'est la force du regret. La deuxième force qui accompagne la force du regret, c'est la force de la détermination à ne pas reproduire de tels actes. Ça, c'est un élément important. On prend l'engagement à ne pas reproduire cet acte parce que cet acte-là, on a conscience qu'il n'est pas en accord avec notre éthique, qu'il n'est pas en accord avec, par exemple, la motivation du bodhisattva, avec l'esprit du bodhisattva. Donc, on prend l'engagement eh bien, de ne pas reproduire cet acte. Quand vous lisez les biographies des maîtres du passé, on voit que la force de la détermination était extrêmement puissante dans leur esprit. Ils prenaient un engagement et ils s'y tenaient. Le karmapa actuel, vous savez qu'il a un caractère plutôt coléreux, eh bien il a vraiment pris l'engagement de ne plus jamais de sa vie se mettre en colère, pas une seule fois. Alors bon, à son niveau, c'est un engagement, je pense qu'il peut tenir. Mais cela veut dire que chez un bodhisattva, même accompli, eh bien, il refuse absolument tout acte qui n'est pas conforme à l'esprit du bodhisattva. Et il ne peut pas accomplir le bien d'autrui si son esprit est dominé par la colère, par exemple. Et c'est comme cela que Rinpo Rinpoche avait expliqué un jour qu'il avait pris la décision, alors qu'il aimait beaucoup se friter avec ses petits copains quand il était gamin, de ne plus jamais se battre. Bon. Et il ne s'est jamais plus battu. Ouais. Mais cela veut dire qu'il y a la force de la détermination, la force de l'engagement. Un bodhisattva, ce n'est pas quelqu'un qui essaye, qui passe son temps à essayer d'être un peu mieux. Quoi. Comme dit Rinpoche, « Don't try to do it, do it ». Il ne faut pas passer notre temps à essayer eh bien, de ne plus accomplir cet acte-là parce qu'on a conscience qu'il est négatif, mais c'est un engagement à ne plus accomplir cet acte-là parce qu'on le considère comme négatif. Il n'est pas conforme à notre éthique de bodhisattva. Et ça, c'est tout le domaine, si vous voulez, c'est toute la notion des engagements et des vœux que l'on prend dans la voie du dharma. Vous avez des personnes qui pensent que les moines, ce sont des personnes qui n'ont plus beaucoup de facteurs perturbateurs, qui n'ont plus beaucoup de tendances négatives dans leur esprit. C'est une perception, hein. C'est une projection. Moi, je pense même plutôt le contraire. Je dirais que les moines, ce sont des personnes qui ont pas mal de facteurs perturbateurs, mais ils disent non à cela. Parce que prendre un vœu, eh bien, une fois que vous l'avez pris, vous ne pouvez plus négocier avec ce vœu. Vous ne pouvez pas vous dire, oui, bon, bah, aujourd'hui, d'accord, et puis on verra demain, je serai plus disponible pour travailler sur cet acte-là demain, alors qu'aujourd'hui, je suis fatigué ou j'ai besoin de me détendre ou je ne sais pas quoi. Quand vous avez un engagement, quand vous avez un vœu, eh bien, ma foi, c'est soit vous travaillez sur ce qui se passe dans votre esprit et vous restez en conformité avec votre vœu, soit vous brisez votre vœu. Mais il n'y a pas d'autre alternative. Hein. Et les vœux ne sont pas réservés aux moines ou aux moniales. Hein. Il y a des vœux de fidèles laïcs. Les laïcs peuvent prendre des vœux pour vivre selon une éthique et pour travailler sur tel ou tel aspect eh bien, de du fonctionnement de leur esprit. Ces vœux sont au nombre de 5. Les laïcs ne sont pas obligés de prendre la totalité des 5 vœux. Ils peuvent en prendre 1, 2 ou les vœux qu'ils veulent. Et pour la durée qu'ils déterminent eux-mêmes. Alors ces 5 vœux, on va les rappeler. Hein, c'est ce qu'on appelle les vœux de fidèles laïcs. C'est ne pas tuer, avec évidemment la motivation hein, de tuer. Si on a vraiment la motivation de tuer même un animal, eh bien ça brise ce vœu-là. Donc ça, dans la vie quotidienne, quand vous avez ce vœu-là, eh bien forcément ça nous amène à réfléchir comment se débarrasser des moustiques, des araignées, des mouches, etc. Ça, vous réfléchissez chacun et vous voyez après ce que vous pouvez mettre en place pour vivre en conformité avec ce vœu. Ensuite, il y a le vœu de ne pas voler. Alors, le vœu de ne pas voler, ça ne consiste pas à s'abstenir demain de faire une banque. Hein. C'est le vœu de ne pas voler, c'est ne pas prendre ce qui ne nous est pas donné. Donc ça aussi, c'est plus large dans notre vie quotidienne. Ça peut nous amener à réfléchir aussi sur cette attitude que l'on peut avoir dans la société, par exemple. Hein. Qu'est-ce que le vœu de ne pas voler. Comment est-ce que je peux vivre ça dans mon quotidien? En fait, on voit que ces vœux hein, sont basés sur éviter de faire des actes négatifs, parce que ces actes négatifs, tuer, voler, eh bien, c'est cause de souffrance pour autrui. Ensuite, il y a le vœu de ne pas mentir. Alors, vous allez tout de suite me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas de mensonge pieux? Oui, certaines fois, s'il n'y a pas la motivation de blesser la personne par le fait de ne pas lui dire la vérité, ça peut être un acte qui ne brise pas hein, le vœu. Il faut donc toujours associer la motivation à l'acte lui-même. Mais mentir avec vraiment la motivation de blesser l'autre, de tromper l'autre, ça ne va pas dans notre éthique. Ensuite, il y a le vœu de ne pas avoir bien conduite sexuelle, c'est-à-dire que par notre conduite sexuelle, eh bien, nous ne soyons pas à l'origine de souffrances pour autrui, pour notre conjoint, si on a un conjoint, par exemple. Et puis, il y a le vœu qui paraît accessoire ou mineur, c'est le vœu de ne pas absorber d'intoxicant. Quand on parle d'intoxicant, ça veut dire tout ce qui peut altérer la conscience, altérer la clarté de l'esprit. Si vous buvez un verre d'alcool, ce n'est pas grave. Mais si vous en buvez jusqu'à ne plus avoir l'esprit très clair, là, ça peut être un problème. Et quand on parle de ce vœu comme étant accessoire, souvenez-vous toujours de ce qui s'est passé à l'époque du Bouddha. Hein, un moine qui a été invité chez une femme et qui, pour déjeuner, et à la fin du repas, la femme lui a dit « Tu as le choix. Tu couches avec moi, tu tues la chèvre ou tu bois de l'alcool. » Donc il s'est dit « tuer, c'est vraiment l'acte le plus négatif. J'ai le vœu de chasteté, donc je ne vais pas coucher avec vous. Par contre, le vœu de boire de l'alcool, c'est secondaire, donc je prends le vœu de l'alcool. Le problème est qu'il en a tellement bu qu'il a couché avec la femme et tué la chèvre. » Tout ça pour illustrer que les vœux qui paraissent comme ça secondaires, quand ils altèrent bien l'esprit, eh bien, ça peut être... ça peut mener vraiment à des actes négatifs. Voilà. Donc sachez que ces vœux existent. Il y a des personnes qui peuvent prendre tel ou tel vœu pour travailler sur tel ou tel aspect du fonctionnement de leur esprit et pour une durée qu'ils choisissent eux-mêmes Ça peut être pour 8 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an. C'est vraiment comme il le souhaite. Voilà. Ensuite, vous avez bon, les vœux de moine et de monial, mais vous avez aussi les vœux de bodhisattva. Et les vœux de bodhisattva, eh bien, tout le monde dans le grand véhicule peut prendre les vœux de bodhisattva. Et les vœux de bodhisattva, ce sont des vœux qui sont considérés comme supérieurs aux vœux de fidèles laïcs ou aux vœux monastiques. Parce que le vœu de bodhisattva, eh bien, touche tous les êtres. On s'engage à ne plus être cause de souffrance pour tous les êtres, sans exception. Alors évidemment que on peut briser les vœux de bodhisattva extrêmement facilement, puisque la moindre pensée négative vis-à-vis d'un être, eh bien, ça brise nos vœux de bodhisattva. Donc il faut les reprendre régulièrement, et il y a une façon de faire pour les reprendre. Mais cela veut dire aussi, et ça pour nous occidentaux, c'est important de bien admettre ça, tant que nous sommes sur le chemin de la perfection, nous ne sommes pas parfaits. Et que les vœux, quels que soient les niveaux de vœux que l'on prend, eh bien, sont des moyens pour nous faire travailler de façon à tendre vers cette perfection. En d'autres termes, tant que nous sommes sur le chemin, il est normal, eh bien, d'avoir des déficiences dans nos vœux. Et ça, c'est un problème pour les Occidentaux. Et pourquoi ? Parce que les Occidentaux, à partir du moment où ils prennent tel vœu, tel engagement, ils considèrent qu'ils ne doivent absolument plus, eh bien, agir de façon contraire à cet engagement. On va s'efforcer à cela. Mais tant que l'esprit n'est pas suffisamment discipliné, suffisamment entraîné à la méditation, eh bien, il y a des tendances dans l'esprit, eh bien, qui vont, si elles deviennent dominantes, elles vont envahir l'esprit et conduire l'individu à accomplir des actes qui ne sont pas conformes à leur engagement, à leurs engagements. Donc il y a possibilité, eh bien, de renouveler ses vœux, de renouveler ses engagements. Il y a des personnes qui disent « Bon, moi je ne prends pas les vœux de bodhisattva parce que je suis sûr que je vais les briser. » Mais il faut voir les vœux comme étant un moyen de travail sur l'esprit. Et le jour où nous serons parfaits, nous n'aurons plus besoin de prendre de tels vœux. Ouais. C'est dans ce sens-là qu'il faut appréhender le fait de prendre des vœux. Et puis, au-delà des vœux de bodhisattva, vous avez les vœux propres au Vajrayana, hein, les vœux tantriques, ou les vœux, en tout cas, du Vajrayana. Bien. Tout ça pour dire que la force de la détermination, la force de l'engagement, c'est quelque chose, mais qui doit être puissant et qui doit être renouvelé encore et encore. Notre esprit ne va pas se transformer comme ça simplement parce qu'un jour, on a envie ou on a le souhait que notre esprit se transforme. Il faut adopter une façon d'être, une façon de vivre, de façon à entraîner notre esprit, de façon à ce que notre comportement devienne plus conforme au souhait, à l'idéal que l'on se fixe en tant que bodhisattva. Ensuite, après la force de la détermination, il y a la force du refuge. Alors ça, c'est un autre élément très important pour nous occidentaux, parce que le refuge est en nous-mêmes. Nous n'avons pas à chercher un refuge à l'extérieur de nous-mêmes. Le refuge, c'est notre nature de Bouddha, c'est notre nature de sagesse. Et ça, les occidentaux, on a un peu de mal à vraiment adhérer à cela, quoi. Le refuge, c'est vraiment cette confiance que nous plaçons en nous-mêmes. Quelle est la différence entre le Bouddha et nous ? Aucune. De nature, il n'y en a aucune. La seule différence, c'est que le Bouddha a accompli tout le chemin, que nous, nous sommes encore en chemin. C'est ça la seule différence. Ce que le Bouddha a pu faire, ce qu'il a pu accomplir, le Bouddha n'était pas un prophète, il ne s'est pas présenté comme un fils de Dieu, etc. C'était un humain, point. Donc ce qu'il a accompli, tout humain peut l'accomplir. Et c'est pourquoi il a enseigné. Et c'est pourquoi il a montré le chemin. Alors bien sûr que notre conscience, notre esprit est recouvert de voiles. Et que c'est ce qui crée des obstacles pour notre cheminement, d'où la nécessité, eh bien, d'entraîner notre esprit, de purifier les voiles, de façon à ce que notre entraînement, eh bien, devienne
de plus en plus, entre guillemets, efficace. Hein. Mais cette nature de Bouddha, nous l'avons tous, et quand on prend refuge, eh bien, en le Bouddha, c'est en cette nature de Bouddha que nous prenons refuge. Et nous devons revenir encore et encore à cette confiance que nous devons avoir en notre nature de sagesse, en notre nature de Bouddha. C'est pourquoi, avant de mourir, le Bouddha a dit « Vous n'avez qu'un seul maître, vous-même. » Tous les maîtres en qui nous pouvons avoir confiance, en qui nous accordons notre confiance, ce qu'on appelle le lama racine dans le Vajrayana. Notre confiance en tel maître, elle vient parce que ce maître incarne le dharma. Mais c'est le dharma qui est vraiment notre maître, qui est vraiment notre référence. Et le dharma est en nous-mêmes. Et vous avez deux aspects dans le dharma. Vous avez le dharma des textes, hein, quand on lit un texte du Bouddha, comment on le comprend, comment on peut le mettre en pratique. Mais le dharma plus profond, c'est le dharma de l'expérience. C'est le dharma de notre pratique. C'est le dharma qui naît de par l'expérience de notre pratique. Et ça, c'est vraiment un dharma encore plus profond, parce qu'il se base sur ce que l'on est en train de vivre. Et quand on parle, quand on dit que la méditation doit transformer notre esprit, ça, les textes disent ça. Ça, c'est le dharma des textes. Mais à nous de vérifier et d'authentifier que les textes ont raison. Et de faire l'expérience de cette transformation de l'esprit par notre pratique. À ce moment-là, ça sera vraiment le dharma de l'expérience. Et c'est en cela que nous pouvons vraiment prendre refuge, que nous pouvons vraiment avoir confiance. Et enfin, la quatrième force, c'est la force de l'antidote. L'antidote, quand on est dans le Vajrayana, vous avez des pratiques spécifiques de purification, hein, comme la pratique, par exemple, de Vajrasattva, avec visualisation, mantra de purification, etc. Mais l'antidote que l'on peut développer à longueur de journée, c'est l'antidote de la vigilance. C'est cette attention à ce qui apparaît dans l'esprit. Quel phénomène est en train d'apparaître, de s'élever dans l'esprit? Est-ce que par la vigilance, je peux être conscient de l'apparition de ce phénomène, de façon à pouvoir lâcher ce phénomène? Non pas faire en sorte qu'il disparaisse, mais simplement le lâcher, le laisser être, le laisser passer. Au début, quand on commence à méditer, cette conscience va s'affiner, mais il nous sera difficile d'être conscient de l'apparition du phénomène. Nous serons conscients du phénomène quand nous serons, en gros, bien dans le phénomène. Mais plus nous méditerons, plus la vigilance va s'installer, l'attention va s'affiner, et il nous sera possible, eh bien, de percevoir l'apparition du phénomène. Et là, c'est extrêmement facile de le lâcher, parce que ce phénomène, eh bien, est encore très peu puissant dans l'esprit, et de le lâcher, eh bien, il s'estompe et s'évanouit immédiatement. D'où l'importance de la méditation, d'où l'importance de s'asseoir régulièrement, tous les jours, pour faire ce travail de l'apprentissage du calme mental, de l'apprentissage de l'établissement de l'attention dans l'esprit. Cela nous servira justement comme antidote pour ne pas se laisser embarquer par tous les facteurs perturbateurs qui peuvent s'élever dans l'esprit au contact de tel ou tel objet. Quand nous avons développé ces quatre forces, alors vraiment tous les actes négatifs que nous avons pu accomplir, et notamment toutes ces empreintes karmiques, sont purifiées. Et il ne faut pas avoir de doute là-dessus. Il ne faut pas se dire « Oh oui, tout est purifié, sauf ça. » Parce que ça, c'est... J'étais tellement nul, tellement moche quand j'ai accompli cet acte-là. Voilà. Le mot tibétain pour dire Bouddha, Sangye, Sang, c'est purifié. C'est celui qui a tout purifié. Cette purification, elle ne peut pas se faire dans 8 jours. Si elle n'a pas pu se faire il y a 8 jours, elle ne peut pas se faire dans 8 jours. Elle ne peut se dérouler que ici et maintenant, dans l'instant présent. Si dans l'instant présent nous sommes conscients de ces quatre forces, tout est purifié. Il ne faut pas se dire, oui, je vais réciter le mantra de Vajrasattva 100 000 fois, comme ça, tout sera purifié. Comme dit Ajahn Chah, c'est toujours là-bas, là-bas, plus loin, là-bas, là-bas. La seule réalité, c'est là, ici et maintenant. Ces empreintes karmiques, une fois qu'elles sont purifiées, elles n'existent plus, donc elles n'entraînent absolument plus de karma à maturité. Donc, comme vous dites en Alsace, hein, le rucksack, eh bien, il faut savoir ce qu'il contient, quoi. Et ne pas sous-estimer ce qu'il peut contenir, même si dans cette vie, tout se passe à peu près bien. Parce que un karma négatif n'arrive pas à maturité maintenant, il peut rencontrer des conditions dans le bardo, hein, dans l'état post-mortem. Et c'est ce qui va conditionner eh bien, la future existence. Voilà, donc ça c'est le premier facteur défavorable pour notre pratique, parce que ces empreintes karmiques, c'est un voile en fait. C'est le voile du karma, c'est ce qu'on appelle le voile du karma. Alors vous savez qu'il y a trois autres formes de voile qui recouvrent notre esprit et qui nous empêchent donc de réaliser sa nature. Hein. Et ces quatre voiles sont complètement interpénétrables, ils s'entretiennent les uns les autres. En plus du voile du karma, vous avez le voile des facteurs perturbateurs. Hein. La jalousie, l'orgueil, l'avidité, l'indifférence, l'aversion, la haine, etc. Bien. Et ça, c'est un voile. C'est un voile. Pourquoi c'est un voile? Parce que quand notre esprit est sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs, eh bien, la nature même de l'esprit en tant que sagesse ne peut pas s'exprimer, ne peut pas se développer. Les qualités de cette sagesse ne peuvent pas se développer. Il est impossible de développer l'amour, la compassion, la bienveillance quand nous sommes sous l'emprise d'une très forte aversion, de l'indifférence, de la jalousie, etc. Et il faut savoir que ce voile des facteurs perturbateurs, c'est quand même le voile le plus facile à purifier. Alors les anciens qui sont là, vous voyez comment vous fonctionnez avec vos facteurs perturbateurs et vous voyez où vous en êtes dans la purification de ce voile. Et puis vous avez... Alors ce voile des facteurs perturbateurs, il entretient en fait le voile du karma. Parce que quand ce voile des facteurs perturbateurs est très puissant, que nous sommes sous l'emprise d'un facteur perturbateur très puissant, eh bien nous accomplissons des actes négatifs. Et ces actes négatifs, donc, laissent des empreintes. Et ça, c'est le voile du karma. Mais le voile des facteurs perturbateurs, il fonctionne aussi à partir d'un autre voile, c'est le voile de la dualité. Toujours cette façon de fonctionner en termes de sujet et objet. Moi et les autres. Et c'est dans cet espace entre le sujet et l'objet que les facteurs perturbateurs peuvent prendre place. Quand l'objet est considéré comme favorable par le sujet, c'est le désir attachement qui s'élève. On veut absolument s'approprier cet objet. Ou on veut que la situation qui nous paraît agréable, eh bien, dure encore ou se renouvelle. Et donc là, on est dans l'avidité, dans le désir, dans l'attachement à quelque chose. Et ça peut être très fort et ça peut nous conduire à accomplir des actes négatifs. Si par contre l'objet est considéré comme défavorable pour le sujet, eh bien, c'est l'aversion qui naît. Et dans l'aversion, vous mettez tout l'éventail de l'aversion. Ça peut aller de l'irritation jusqu'à la haine la plus tenace, quoi. Et puis, vous avez des objets qui laissent indifférent le sujet, et donc, c'est ce qu'on appelle l'opacité mentale ou l'indifférence. Et ces trois facteurs perturbateurs sont appelés les trois poisons de l'esprit parce qu'en fait, à longueur de journée, nous agissons et nos actes sont pour la plupart motivés par l'avidité, par l'aversion ou par l'indifférence. Et si vous ajoutez à ces trois poisons de l'esprit la jalousie et l'orgueil, eh bien vous avez tout ce qui fait fonctionner le monde aujourd'hui. Et observez, amusez-vous, si l'on peut dire, à observer quand vous entendez une nouvelle d'un individu qui a créé vraiment une souffrance à un autre individu. Dites-vous, mais qu'est-ce qui a pu s'élever dans son esprit qui l'a poussé à agir de cette façon-là? Et que ce soit dans une relation entre deux individus ou que ce soit lors d'un conflit entre deux peuples, eh bien vous trouvez toujours un, voire plusieurs, de ces cinq facteurs perturbateurs. Il n'y a rien d'autre. Et ça fonctionne toujours comme ça. L'esprit étant sous la soumission, sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs. Et ça, c'est vraiment un voile. Et le quatrième voile qui s'imbrique dans les trois autres, c'est le voile des tendances. Il y a le fait, et ça on en parlera après, mais c'est le fait de toujours fonctionner de la même façon quand on rencontre le même type de situation. Ou le même objet, entre guillemets, eh bien cela entraîne, dès qu'il y a contact avec cet objet, eh bien cela entraîne toujours le même mode de réaction. Et ça, c'est le voile des tendances. Et le voile des tendances est un voile qui est assez difficile, enfin en tout cas pas difficile, mais le plus long à purifier. Et Kalo Rinpoche prenait toujours cet exemple d'une feuille de papier pliée depuis des années qu'on retrouverait dans le grenier, et on voudrait effacer le pli. On peut repasser la feuille de papier, elle peut redevenir très plate, mais il y a toujours une marque. Eh bien, la tendance est un petit peu ça, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a, eh bien, toujours cette espèce de cicatrice qui se rappelle à nous, et on va dire une espèce de fragilité dans ce fonctionnement de l'esprit lorsque l'esprit entre en contact avec tel ou tel objet. Quand je parle d'objet, hein, ça peut être un objet, ça peut être une personne, ça peut être une circonstance, une situation, etc. Voilà. Donc ça, c'est le premier facteur défavorable. Vous voyez qu'il est déjà copieux, celui-là. Ensuite, le deuxième facteur, ça, c'est plus simple, c'est certains objets eux-mêmes avec lesquels nous entretenons une certaine relation et qui font que, eh bien, le voile des tendances peut vraiment s'exprimer. Sans que nous en soyons conscients, quand une conscience sensorielle entre en contact avec un objet, eh bien, il y a toujours cette même réaction instantanée, inconsciente, qui s'élève dans notre esprit. Et ça, cela veut dire qu'il y a une relation entre cet objet et notre esprit. Par exemple, j'ai la phobie des serpents. Ne vous amusez surtout pas à mettre un orvet quelque part, même un orvet, hein, même si je sais que c'est un lézard sans pattes, je sais. Mais ne me mettez surtout pas ce genre d'animal près de moi, quoi. Dès que mon esprit est en contact avec cet animal, il y a une réaction immédiate. C'est-à-dire, avant de tomber dans les pommes, je risque fort de vous...
mordre.
Comment ?
Vous mordre.
Oui, ou en tout cas, voilà. Quelque chose dans ce genre. Tellement l'aversion est forte. Et bien ça, c'est parce qu'il y a une relation qui existe entre cet objet, ce serpent, et mon esprit. Après, cette relation, elle a sans doute été façonnée, structurée, construite pendant des vies et des vies. Mais, et on a tous ce genre de réaction, hein, mais c'est une réaction qui est, on va dire, presque instinctive, quoi. Aussitôt, j'ai le cœur qui bat, je mets 10 minutes pour passer où le serpent était alors qu'il est parti et qu'il est sans doute déjà loin, etc. C'est incontrôlable, quoi. Voilà. Eh bien, quand... l'histoire du serpent, c'est pas trop problématique pour... pour les engagements que je peux avoir à partir du moment où ma peur fait que je ne vais pas tuer le serpent. Mais il peut y avoir une relation avec certains objets, eh bien, qui crée vraiment un obstacle aux engagements que l'on prend. Et ça, chez certaines personnes... C'est impossible pour certaines personnes de prendre tel vœu, ou un vœu de Bodhisattva, par exemple, ou telle autre forme d'engagement. En Ensuite, le troisième facteur défavorable, c'est les situations extérieures. Ce qu'on appelle les situations extérieures, c'est vraiment des situations qui ne sont pas favorables à notre pratique, mais ça peut être aussi des individus, ce qu'on appelle les faux amis dans la pratique de Lojong. Hein, il y a ce terme des faux amis. C'est-à-dire que pour notre pratique, nous devons quand même nous entourer d'un environnement plutôt favorable à notre pratique. Évidemment que dans 10 ans, peut-être qu'un environnement qui aujourd'hui nous semble défavorable, eh bien, on pourra le percevoir et le vivre tout à fait différemment lorsque notre esprit sera suffisamment entraîné, par exemple. Hein? Mais cela implique que nous devons connaître un peu nos limites. Quelles sont, jusqu'où je peux aller? Qu'est-ce que je dois éviter pour, eh bien, préserver ma pratique? Et ça, c'est à chacun de réfléchir là-dessus. Vous allez me dire, il y a des situations que l'on ne peut pas éviter. Bon, oui, dans ce cas-là, il faut travailler d'une autre façon. Mais quand on peut éviter certaines situations, parce qu'on est sûr de boire la tasse, quand on se retrouve dans cette situation, et qu'elle nous entraîne donc à une attitude qui n'est pas conforme à notre engagement, si notre esprit est, entre guillemets, faible dans cette situation, il est préférable, et c'est, je pense, une pratique de Bodhisattva, à ce moment-là, de quitter, si l'on peut, la situation. Mais de préserver, en tout cas, notre pratique. Tout le Theravada se base là-dessus. Toute la vie monastique chez les moines du Theravada, au Sri Lanka, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, eh bien, se base sur cette notion-là. Et c'est comme ça qu'un moine, par exemple, ne va pas toucher une femme pour éviter le désir. C'est comme ça qu'un moine ne va pas toucher de l'argent. Oui. Alors c'est facile à comprendre, c'est pas toujours facile à vivre dans le quotidien. Hein. Les moines de Souffelweyersheim, par exemple, eh bien, s'ils veulent acheter quelque chose, ils doivent aller faire leurs courses avec un laïc. Parce qu'ils ne peuvent pas toucher l'argent. J'ai été invité un jour dans une pagode thaïlandaise à déjeuner. C'est très surprenant pour nous, quoi. Vous avez une espèce de grande toile. Et quand la personne, si c'est une femme qui vous pose l'assiette, eh bien vous ne prenez pas directement l'assiette. Vous mettez votre toile, la personne pose l'assiette sur votre toile, vous tirez la toile et vous prenez l'assiette. Pour éviter tout contact direct. Voilà. Mais ça a été enseigné aussi par le Bouddha, ça. Ça veut dire que il ne faut pas se dire que parce que nous sommes dans le Vajrayana ou dans le Mahayana, ça ne nous concerne absolument pas. Oui, moi je peux prendre une assiette qu'une personne féminine me pose devant moi, ça va. Mais il y a sans doute, et pour nous tous, certaines situations qu'il est préférable d'éviter, parce que notre esprit n'est pas suffisamment fort. Et peut-être que dans 10 ans, eh bien, quand notre esprit sera plus entraîné, à ce moment-là, cette situation, nous pourrons la vivre tout à fait différemment. Hein. Mais c'est cette réflexion, qu'est-ce qui m'est défavorable et qu'est-ce qui m'est favorable pour que je vive en conformité avec les engagements que j'ai pris. Voilà. Le quatrième point, c'est de suivre des enseignements erronés. Alors, ce qu'on appelle les enseignements erronés, c'est tous les enseignements qui vont à l'encontre, eh bien, de l'enseignement, de la voie dans laquelle, eh bien, la voie que l'on suit. Par exemple, l'hindouisme. L'hindouisme propose, c'est une forme de pratique, sacrifice des animaux. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de sacrifice d'animaux, c'est même vu comme plutôt un acte négatif. Et le Bouddha a réfuté le bien fondé des sacrifices d'animaux dans l'hindouisme en disant il ne peut pas y avoir d'accumulation de mérite, entre guillemets, alors que pour cette accumulation de mérite, ça se fait au détriment d'un être. eh bien, je sais pas, si on a un intérêt pour une autre voie, si on s'intéresse à d'autres voies en même temps que le Dharma, pourquoi pas? Mais il faut être attentif à ce moment-là, à ce que cette autre voie n'entre pas en conflit ou en contradiction avec cette voie, notamment la voie du Bodhisattva. Cinquième point, c'est le voile des tendances, c'est l'accoutumance, l'habitude. C'est le fait de se complaire dans une attitude qui n'est pas conforme à notre engagement, mais que l'on trouve quand même agréable. Et là, on va entretenir une tendance qui donc va à l'encontre de notre pratique. Quel est l'antidote au voile des tendances? Eh bien, c'est le renoncement. C'est prendre la décision, eh bien, de dire non à cette attitude. De mettre un terme à ce fonctionnement qui va toujours dans ce même sens. Parce qu'on constate, parce qu'on a conscience que ce fonctionnement-là, ce mode de fonctionnement, eh bien, n'est pas conforme à l'engagement que l'on a pris. Mais seulement, il y a une tendance dans notre esprit qui fait qu'on a tendance, on a l'habitude à se porter vers ce type de situation. Et c'est pourquoi le voile des tendances, en fait, est difficile à purifier, parce que ça va à l'encontre d'un mouvement de l'esprit qui peut être assez puissant. Et donc, il faut à ce moment-là, eh bien, mettre une espèce de coup près, hein, et qui dit non à cette tendance. Voilà, Rinpoche dit, rencontrant un objet semblable, le souvenir de cette expérience apparaît. Et chaque fois que vous la répétez, la force de cette mémoire s'accroît, toujours plus puissante et déformée dans votre imagination. Donc ça, c'est pas facile à mettre en place, parce que ça peut être, comme je disais, quelque chose de très puissant dans l'esprit. Mais c'est un obstacle, ça crée un obstacle à notre cheminement spirituel. Donc à chacun de voir quelle tendance il a dans son esprit et comment travailler sur ce type de tendance. Et puis le sixième facteur, c'est la déformation de nos perceptions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous avons une perception d'une situation ou une perception de quelqu'un, cette perception est liée au conditionnement de notre esprit. Et cette perception ne correspond pas à ce qu'est la situation ou ce qu'est la personne. Et on attribue à la situation ou à la personne une valeur que l'on établit de façon fixe ou d'une façon absolue. Or, cette perception, elle est liée par exemple à notre culture, à notre éducation, à notre formatage entre guillemets. Et il suffit de faire en gros 8 heures d'avion. Moi, je trouve que le pays, je ne connais pas la Chine, mais l'Inde, c'est vraiment un super pays pour ça, quoi. Parce que l'on voit que toutes nos valeurs que l'on établit ici de façon absolue, et pendant des siècles, on a quand même fait souffrir des millions d'êtres simplement pour leur imposer nos valeurs qui, pour nous, étaient absolues. Quand vous arrivez en Inde, si vos valeurs absolues, vous ne les avez pas laissées à Charles de Gaulle, vous vous en prenez plein la tête. Parce qu'ils ont d'autres valeurs tout aussi absolues que les nôtres. Mais c'est vraiment des valeurs quelquefois contraires aux nôtres. Et c'est très intéressant ce genre d'expérience parce que, en général, on crise bien quand on arrive dans ce pays. Hein, les premiers jours, on crise bien parce qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne et tout ce qui nous paraît avoir une certaine valeur, eh bien la plupart de ces valeurs sont mises à mal par d'autres valeurs dans leur pays. et qui sont définis par ces gens-là de façon tout aussi absolue que les nôtres, aussi rigidifiée et solidifiée que les nôtres. Tous nos jugements sont basés là-dessus. Tout ce qu'on établit de façon définitive, c'est comme ça. Mais même nos critères de beauté, par exemple. Un Tibétain ne trouve pas forcément très beau un coucher de soleil, quoi. Il trouve ça plutôt triste. Alors, est-ce qu'un coucher de soleil, c'est magnifique, ou est-ce qu'un coucher de soleil, c'est triste? Et puis, ça dépend, hein. Ça peut être magnifique, mais si vous avez reçu un rappel d'impôt très conséquent aujourd'hui, vous savez, le coucher de soleil de ce soir, vous allez moins le regarder. Par contre, si vous avez rencontré l'âme sœur de votre vie, que c'est le coup de foudre aujourd'hui, alors là, le coucher de soleil, ça va prendre une autre dimension, quoi. Je me suis vraiment rendu compte de ça quand Rajesh est venu la première fois en France. Je l'ai traîné à Versailles. Il s'est ennuyé toute l'après-midi. Je finissais par m'agacer parce que je lui disais, mais attends, il y a des personnes qui font des milliers de kilomètres pour venir voir ce château, et toi tu regardes ça alors comme ça, sans aucun intérêt. Et je me suis rendu compte que, bah ouais, c'est pas du tout la même culture, il ne connaît pas notre histoire, il ne sait pas qui vivait là, à quelle époque, ce que ça correspondait, l'esthétique n'est absolument pas le même, etc. Et puis alors j'ai vraiment vécu l'inverse, c'est-à-dire qu'un jour il a voulu me faire plaisir, il m'a emmené sur les bords du Gange, voir tous les vieux palais des Maharajas qui sont au bord du Gange à Bénarès. Ça fait 50 ans qu'ils sont délabrés et qu'ils ne sont plus du tout entretenus. Moi, je ne voyais que des vieux murs qui commençaient vraiment à tomber en ruine. Et pour Rajesh, alors c'était vraiment le summum. Il ne comprenait pas du tout que ben, je ne partage pas son enthousiasme, quoi. Mais voilà, nous avons beaucoup, beaucoup de jugements comme ça de valeurs, hein, liés à nos perceptions que l'on définit comme étant exactement ce qu'est la situation ou ce qu'est la personne. Et ça, c'est un travail à faire aussi sur nous-mêmes, parce que ces valeurs établies de façon absolue, eh bien, ça peut entraîner beaucoup d'actes négatifs de notre part. Quand les Rinpoche parlent de souplesse dans l'esprit, hein, ce genre de situation, on voit bien où est notre souplesse. Donc voilà, ces six facteurs sont considérés comme des facteurs défavorables pour notre pratique, et Lama Yeshe dit: c'est pourquoi je vous prie de vérifier par vous-même et de bien vouloir méditer sur ces six facteurs. Cela en vaut vraiment la peine. Votre compréhension peut alors s'affermir et rendre votre esprit véritablement apte à suivre le droit chemin. Autrement, il n'y a aucun moyen pour commencer à se débarrasser soi-même des facteurs perturbateurs. Est-ce qu'il y a des observations, des questions?
J'aurais une question. On considère que c'est un acte négatif à partir du moment où, sciemment, on veut faire souffrir autrui. Mmh. Mais qu'en est-il d'une situation où on se fait sciemment souffrir soi-même? Par exemple, si je prends une addiction à la cigarette, mm-hmm. on sait très bien qu'en fumant, on se détruit la santé, mais on ne peut pas s'arrêter de fumer.
C'est ça la tendance. C'est ça le voile de la tendance. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, il y a une relation, hein, entre l'esprit et cet objet. Et en fait, on peut retrouver plusieurs facteurs dans cet exemple-là. Il y a la tendance qui est là et qui peut être très forte, d'où la difficulté de descotcher de cette tendance. Il y a la relation qui existe entre l'esprit est cet objet. Et c'est bien une relation personnelle, puisque cet objet peut laisser totalement indifférent une autre personne. Il y a le facteur perturbateur d'attachement à ce moment-là, hein, qui se développe forcément dès qu'il y a contact avec cet objet. Eh bien, il y a le désir de s'approprier cet objet. Donc, il y a plusieurs facteurs qu'on a évoqués ce soir qui peuvent être compris dans cet exemple. Alors, après, je crois qu'il y a la notion de sommes-nous libres ? Et quand nous sommes dépendants de quelque chose, de quoi que ce soit, hein, où est notre liberté à ce moment-là ? Et cet exemple peut être étendu à d'autres exemples. C'est-à-dire que vous avez des addictions pour beaucoup d'autres choses. On peut avoir des addictions pour vraiment autre chose. Il y a des personnes qui, si elles ne souffrent pas, n'ont pas le sentiment d'exister. Ce n'est pas forcément conscient, mais on pourrait résumer « je souffre, donc j'existe ». Et ça, c'est encore une autre forme d'addiction, hein. Il faut être conscient de ce fonctionnement de l'esprit. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que la méditation, ce n'est pas simplement être concentré sur un objet et puis développer cet aspect de concentration, mais c'est aussi comprendre, voir le fonctionnement de notre esprit. Et appliquer la méditation pour transformer ce fonctionnement de l'esprit. Et bien sûr qu'on peut se faire aider par d'autres éléments extérieurs à la méditation. Mais à un moment donné, j'utilise souvent cette expression, il faut en avoir marre d'en avoir marre. Mm-hmm. Quand nos actes sont toujours accomplis sous l'effet de facteurs perturbateurs, où est notre liberté à ce moment-là ? Nous sommes soumis comme des pantins et nous sommes tenus par les ficelles de ces facteurs perturbateurs. Et il y a un jour, et c'est là où je pense que se situe vraiment le renoncement. C'est le renoncement, en fait, à ce fonctionnement de l'esprit. Il n'est pas favorable ni pour moi, ni pour autrui. C'est, je pense, une réflexion de Bodhisattva. Ça. Le Bodhisattva, c'est celui qui veut ne plus être cause de souffrance pour autrui et qui veut faire en sorte que l'autre soit heureux. Apporter la paix, le bonheur autour de lui, etc. Mais il doit commencer à voir comment faire la paix en lui-même. Songeur. Alors pendant que vous réfléchissez, on peut dire quelques mots sur la retraite de 10 jours auprès de Lama Tempa Gyamso. Vous savez, ce Lama Tempa Gyamso, c'est ce lama qui vit en ermite dans le sud-ouest depuis 1988 et que l'on voit tous les 5 ou 7 ans. Donc là, il terminait une période de 5 ans, donc comme il commence à avoir un certain âge, il ne va plus dans tous les centres, mais il a organisé deux périodes de 10 jours de retraite. Et ce lama, quand il était en Bourgogne, au centre de Kaguling, on l'appelait lama Rangbap. Lama Rangbap, Rangbap, Rang, c'est moi-même, et Bap, c'est tomber. Hein, la pluie qui tombe, c'est Bap. Et parce que quand on allait le voir et qu'on avait un souci ou un obstacle, etc., l'instruction qu'il donnait, c'était toujours Rangbap, Rangbap. laisse tomber celui qui s'agrippe, quoi. Laisse tomber. Voilà. Et tout son enseignement pendant 10 jours, Marie-Marie qui est ici, elle était avec nous pour cette retraite. Pendant les 10 jours, Lama Thenpa a développé cette notion de Rangbap. Laisse tomber, ne t'accroche pas. Ne t'accroche à rien de ce qui apparaît dans l'esprit. Et c'est vraiment la solution, quoi. Et quel que soit l'élément qui apparaît dans l'esprit, qui s'élève dans l'esprit, que ce soit positif, négatif, etc., il ne s'accroche à rien. Ça ne l'empêche pas de vivre, ça ne l'empêche pas d'avoir des projets, ça ne l'empêche pas d'être attentif à autrui, etc. Mais on sent très bien que, il n'y a plus aucune saisie dans son esprit. Et alors, à chaque fois qu'il parlait de la mort, il éclatait de rire. Mais on le sent, alors lui, on le sent, mais totalement libre, par rapport à tout ce qu'il peut vivre, à toutes les situations qu'il rencontre. Totalement libre, et alors totalement en paix et heureux, quoi. Mais pas du tout indifférent à tous ceux qui l'entourent, hein. Ça, alors, pas du tout. Ouais.
Quand vous parlez de limite et de saisie de l'esprit, ceux qui croient en nous être limités, c'est l'esprit qui s'en saisit, ou pas?
Oui. Oui.
Donc, quand on est dans une situation, tout à l'heure vous parliez de respecter ses limites, il y a quelque chose en moi qui est une source d'incohérence quelque part, en fait. Oui, effectivement, c'est vrai que respecter ses limites pour ne pas sombrer, simplement c'est juste. Et en même temps, si on lâche le moi qui s'agrippe.
Ah, oui. Ça vous donnez la solution, vous donnez l'antidote. Bien sûr. Si vous lâchez, mais il n'y a pas de limite à craindre, et il n'y a pas de limite à ce moment-là. Mais quelquefois, c'est très difficile de lâcher dans telle ou telle situation. Et alors, à ce moment-là, c'est une limite. Parce que si on dépasse et que l'on se retrouve dans cette situation-là, on boit la tasse, quoi. On est sous l'emprise de cette saisie, sous l'emprise des facteurs perturbateurs qui se développent à ce moment-là. Et donc, il est préférable, en fait, de ne pas aller au-delà si on n'est pas sûr de pouvoir lâcher, quoi.
D'être conscient de la partie de nous-mêmes qui s'agrippe et de s'agripper de moins en moins.
Si vous êtes consciente que vous êtes en train de vous agripper, il y a déjà une part de lâcher prise qui est là, quoi. Ouais. Et plus nous pratiquons à ne pas saisir, plus les limites se repoussent.
On va aller la rencontrer. On travaille presque sur ça.
Oui, et à ce moment-là, si on est à cette limite, on voit si on peut lâcher ou pas.
C'est une réflexion que je me faisais ce matin en faisant des exercices de yoga. De toute façon, à un moment, il y aura une limite. Aujourd'hui, elle est comme ça, demain, elle est là. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec?
Soit vous lâchez, soit vous ne pouvez pas lâcher. Et si vous lâchez, vous voyez ce qui se passe dans l'esprit par rapport à cette limite. Si la limite est encore là ou pas. C'est l'esprit qui fixe les limites. Quand il saisit, c'est ça la limite. S'il ne saisit pas, il n'y a pas de limite. Non? serveur, hein, tout ça.
Moi, j'ai un petit souci avec la parole.
Attendez, parlez fort parce que je deviens vieux, je n'entends plus rien.
J'ai un petit souci avec la parole. À partir de quel moment ça devient un acte? C'est quand ça fait souffrir l'autre, mais on ne le sait pas forcément. L'autre, on ne sait pas ce qu'il entend par nos mots. Et c'est très délicat, je crois. Enfin, moi, je ne sais jamais si je vais parler, me taire. Je le sens pas trop.
Mais il n'y a pas de règle. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui vous pousse à parler? Quelle est la motivation qui est derrière la parole que vous adressez à l'autre, quoi? Et si vous n'avez, j'allais dire, rien à dire, mais
il y a aucune,
pas parler.
La plupart du temps, il n'y a aucune malveillance derrière, mais la façon dont on s'exprime peut heurter l'autre sans qu'on le veuille.
Oui, mais ça s'adresse à l'esprit de l'autre. C'est l'autre qui perçoit ce que vous dites à partir de ses propres conditionnements. Avec la meilleure volonté du monde, vous pouvez blesser quelqu'un avec vos paroles.
Oui.
Mais vous n'avez pas l'intention à ce moment-là de blesser cette personne. Mais l'autre, à ce moment-là, peut prendre votre parole de telle ou telle façon parce qu'il est dans tel conditionnement du moment qui font que vous prenez cette parole de cette façon. Et cette même parole avec la même motivation pourrait être perçue différemment par cette même personne alors qu'elle est dans des conditionnements différents. Mais ça, c'est tout le. Ça rejoint un peu ce que. Vous savez, dans les paroles négatives, il y a ce qu'on appelle les paroles futiles, quoi. À l'US, par exemple, on a installé le système qu'en semaine, eh bien, on fait silence le soir. Et alors, le week-end, bon, je le redis, là, j'en profite, mais le week-end, essayez de faire le maximum de silence, quoi. On ne va pas imposer le silence parce que ça peut créer vraiment de tensions, sauf à partir de 18h. Mais le week-end, franchement, mais laissez de côté ce blabla, quoi. Vous venez dans un centre pour observer votre esprit, point, quoi. Et ça perturbe beaucoup d'autres personnes qui ont besoin de ce silence. En tout cas, de ce calme. Parce que même si maintenant on est attentif à ne pas refaire et la politique et l'économie pendant le week-end, mais ça discute quand même, je sais pas, il faudra un jour enregistrer et voir à la fin de la journée tout le nombre de sujets qui ont été évoqués simplement aux intercessions, quoi. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'entre deux sessions de méditation, il y a 5 minutes de pause. Mais alors, quelquefois dans les 5 minutes, simplement dans les 5 minutes, c'est à se demander si pendant les 25 minutes qui précédaient, donc pendant la session de méditation, l'esprit était devenu une véritable cocotte minute et qu'il lui faut, mais pendant 5 minutes, complètement se défouler et dire tout et n'importe quoi. Mais faites vraiment l'expérience que si vous vous taisez pendant ces 5 minutes, et si vous parlez par contre pendant ces 5 minutes, il y a une grande différence au niveau de l'esprit quand vous retrouvez 5 minutes après votre coussin pour à nouveau une session de 25 minutes. Et quand on commence à goûter à ce genre d'expérience, mais on n'a qu'une envie, c'est non seulement de se taire, mais que les autres se taisent aussi. Parce que les dernières vacances, ou ce qu'on a vu à la télé ou sur YouTube, et de tels trucs qu'on a... mais ça n'intéresse personne, quoi. Les gens écoutent simplement par politesse, quoi. Pour ne pas vous dire, mais j'en ai rien à faire de ton histoire. C'est très difficile, hein, silence. Et pourtant, quand on goûte au silence, eh bien, on voit que c'est une condition très favorable pour la pratique. Hein. Ouais.
Moi, par rapport au silence, je pense que j'ai un problème qui est lié au fait que je peux très bien rester en silence, mais que je converse avec moi-même. Et du coup, c'est un peu une limite. Et il y a des fois où je mets, j'écoute des choses pour ne pas être en conversation avec moi-même. Et je ne sais pas trop comment le gérer entre essayer d'être quand même en vrai silence, c'est-à-dire en silence par rapport aux autres et par rapport à moi-même, ou par moment, bah, j'y arrive vraiment pas, donc je préfère écouter. Et, enfin, j'ai l'impression que je ne fais pas beaucoup de progrès. Donc,
à ce moment-là, vous pouvez peut-être prendre, quand vous êtes au silence, vous pouvez placer votre esprit sur un support. Et si vous sentez que vous avez une conversation avec vous-même, etc., eh bien, utilisez un support, une parole en tant que support. D'où, par exemple, les supports tels qu'un mantra. Parce que ça utilise la parole. Apparemment, c'est assez développé, par exemple. Mais ça utilise la parole, mais d'une façon à placer l'esprit dans un état d'attention. Essayez, pour voir ça. La marche.
La marche méditative.
Mais on peut marcher avec tout un...
Non, c'est... Oui, bien sûr. C'est pas facile. Quand on peut aussi se concentrer sur ses pas, comme on le fait dans la marche lente.
C'est-à-dire, en fait, dévier l'attention que l'esprit porte sur quelque chose et on dévie cette attention sur autre chose. D'accord.
Est-ce que l'objectif de la méditation, c'est d'arrêter de penser ?
Non, surtout pas. Vous ne pourrez jamais vous arrêter de penser. Alors ça, voilà, ça c'est une très bonne question. Vous ne pourrez jamais arrêter de penser. Il se peut que, oui, les pensées vont diminuer et que vous expérimentiez un jour l'espace qui existe entre la fin d'une pensée et le début de la suivante. Ça, d'accord. Mais ce n'est pas le but. Qu'il y ait beaucoup de pensées, peu importe. Laissez-les passer. Ne vous laissez pas embarquer par telle ou telle pensée, ou par ce flot de pensée. D'où, au début, la nécessité d'un support de méditation. Par exemple, la respiration ou un autre support. Et quand vous voyez que votre esprit est pris par une pensée, eh bien, vous êtes conscient que vous êtes distrait par cette pensée, vous lâchez cette pensée, mais vous replacez aussitôt votre esprit sur le support. Le calme de l'esprit n'est pas synonyme d'un esprit dans lequel il n'y a plus de pensée, plus de mouvement, plus de phénomène. Le calme de l'esprit, c'est un esprit qui ne s'accroche plus à ces phénomènes. Donc vous pouvez être calme alors qu'il y a beaucoup de mouvement. Marie-Pierre ?
Alors ça, c'est valable aussi si par exemple on récite un mantra et qu'on fait une visualisation, on s'aperçoit qu'il y a quand même une pensée. C'est aussi on n'est pas vraiment dans une disposition claire malgré la récitation du mantra, malgré la visualisation, il y a encore des choses.
Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il y en aura tout le temps. Il y a comme un arrière-fond. Hein? Mais à ce moment-là, la visualisation ou le mantra sert de support. Donc tout en étant conscient de cela, vous êtes conscient de cet arrière-fond, mais vous ne vous laissez pas embarquer par cet arrière-fond, vous restez concentré par le support qui est visualisation et mantra.
D'accord, donc même au moment où on aura vraiment une réalisation... grande réalisation, on aura toujours ce...
De moins en moins. Mais il y aura quand même des phénomènes qui apparaîtront et qui s'élèveront. Et ça, une question, Rinpoche a été très clair là-dessus, quoi. Il a dit simplement, on ne suit pas les phénomènes. Et quelqu'un de réalisé ne suit aucun des phénomènes. Alors non seulement il ne suit pas les phénomènes parce qu'il comprend la nature des phénomènes, mais parce qu'il a compris aussi qu'il n'y a personne pour les suivre, quoi. Ça, c'est encore autre chose. Mais les phénomènes sont là, quoi. Et Rinpoche était très clair là-dessus. Il disait qu'ils peuvent même avoir une irritation dans une situation qui fait naître de l'irritation. Simplement, il n'y a aucune saisie de cette irritation. Donc, elle s'évanouit dès qu'elle apparaît, quoi. Mais ce ne sont pas ils sont pas anesthésiés, quoi. Quand ils sont en contact avec un objet, eh bien, il y a une sensation immédiate qui s'établit à partir de ce contact, comme pour nous. C'est agréable, désagréable ou neutre. Et ça, ça fonctionne. Là, c'est la conscience, qu'on appelle la conscience sensorielle, qui entre en contact avec un objet. Par exemple, je sais pas, je vois ce coussin, ok. Ça, c'est la conscience sensorielle qui entre en contact avec cet objet. C'est la conscience mentale qui va définir que cet objet est un coussin. Ça, c'est la conscience mentale. La conscience sensorielle et la conscience mentale ne sont absolument pas productrices de karma. C'est ce qu'on appelle la conscience perturbée qui va être productrice de karma. La conscience perturbée, c'est ce coussin, il me plaît ou il me déplaît. Ça, c'est la conscience qu'on appelle perturbée. Quand on comprend ça, on voit que, en fait, un Rinpoche, un être réalisé, sa conscience sensorielle fonctionne, sa conscience mentale fonctionne, mais ce qui a disparu, c'est la conscience perturbée. Voilà. Mais il est conscient des objets et il nomme les objets.
Moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que comme je regarde quasiment plus de films, un jour où j'avais fait une méditation assez longue et j'avais atteint un certain état de calme, et j'ai regardé un film avec les enfants. Et j'ai eu cette impression très désagréable que le film s'était plaqué, me collé à toutes les situations de violence, etc. Et je me suis dit, mais à quoi bon, quoi, une espèce de réceptacle plus important pour avoir pris de façon beaucoup plus forte des choses comme ça. Je sais pas si c'est clair. C'est quoi? C'est la conscience perturbée après.
Oui, qui intervenait. Oui. Et c'est cette conscience-là qui est productrice en fait de karma. Parce qu'elle est dans le jugement, elle est dans la dualité, elle est dans le j'aime, je n'aime pas, agréable, désagréable, etc. C'est bon ? Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous. Merci.